Très bien, vous êtes de parfaits disciples de Jésus, puisque en ce jour de la Pentecôte, tout commence par le fait que les disciples étaient tous assis dans le même lieu. Et dans quelques instants, on pourra même dire qu'ils sont peut-être tous pleins de vin. En ce sens, nul ne pourra nous accuser de ne pas être de dignes disciples du Christ. Toutefois, les disciples de Jésus ne vont pas passer leur journée assis les bras croisés, ni le reste de leur vie en attendant que ça se passe. Vivre ainsi, voyez-vous, ne serait pas vraiment fidèle à l'existence chrétienne. Parce qu'en ce jour de Pentecôte, Dieu intervient, non pas pour les caresser dans le sens du poil, mais pour les secouer, et les secouer sévèrement. Il va les secouer et leur faire sortir la langue de la bouche, un peu comme ça a déjà été le cas tout à l'heure. Eh bien, voyez-vous, ce que nous célébrons, non pas comme un événement ayant eu lieu autrefois, et qu'il faudrait commémorer avec solennité, mais une sorte de nostalgie. C'est ce que l'Éternel accomplit aujourd'hui encore. Aujourd'hui, Pentecôte est l'occasion de dire que nous recevons des langues de feu et que nous sommes capables de parler des merveilles de Dieu. Voilà ce que j'aimerais que nous retenions cette année de ce texte biblique. Nous recevons chacun, chacune, des langues de feu qui nous rendent capables de parler des merveilles de Dieu. Les disciples, effectivement, reçoivent le Saint-Esprit sous forme d'une langue de feu. Alors, un peu dans le droit fil des questions posées, notamment par Alaé, mais d'autres aussi. Elles sont où, ces langues de feu? Que sont ces langues de feu? Et où est le Saint-Esprit? L'avez-vous vu ce matin? Avez-vous pu l'attraper, le saisir, l'entendre, le ressentir? Le Saint-Esprit, là encore, quand vous serez en Grèce, vous entendrez que l'Esprit, c'est le vent, c'est le vent, c'est le souffle. Où est ce grand vent terrible qui doit faire du vacarme? Et pourtant, je disais que Pentecôte n'est pas qu'un souvenir du passé, que c'est notre présent, notre actualité. Alors, où sont les langues de feu? Eh bien, fort heureusement, vous avez suivi de nombreuses séances de catéchisme où nous avons eu l'occasion de nous exercer à lire la Bible pour essayer d'en comprendre les textes. Et nous avons eu de multiples fois l'occasion de découvrir que les textes de la Bible ne doivent pas être pris au pied de la lettre, ne doivent pas être lus de manière littérale, ce qui signifie que les langues de feu ne sont pas des langues de feu. Ou plus exactement, elles ne sont pas des langues de feu au sens où un peintre aimerait pouvoir les représenter. Dans le cas présent, le Saint-Esprit, qui n'est pas non plus un quelque chose qui serait facilement représentable sur une toile, le Saint-Esprit est ce qui permet aux disciples d'entrer en communication avec des personnes venues de l'étranger qui ne parlent pas leur langue. Eh bien, comment mieux représenter le fait que nous sommes rendus capables de parler une nouvelle langue qu'en racontant une langue qui n'a rien à voir avec la langue que nous avons déjà vient sur chacun de nous? Comment pouvoir mieux dire que nous sommes capables de parler la langue des étrangers, comprenant l'image d'une langue qui nous est particulièrement étrangère? Oui, une langue de feu, c'est proprement surnaturel. Parce que parler une langue étrangère, cela n'a rien de naturel. Cela ne vient pas comme ça, sans effort, sans travail, sans intégration personnelle. Mieux que cela, parler une langue n'est pas naturel. Les jeunes bébés qui viennent au monde ne parlent aucune langue, mais ils sont capables de toutes les parler. Cet événement de Pentecôte est donc proprement surnaturel, au sens où il ne laisse pas les disciples dans leur état naturel. Pentecôte, c'est l'histoire d'un Dieu qui secoue les disciples, qui ne les laisse pas en l'état, qui ne les laisse pas indifférents, qui ne les laisse pas assis sur leur banc avec les jambes sagement croisées. Et quant à cette langue, elle est étrange, suffisamment étrange, pour nous permettre d'entrer en communication avec des étrangers, avec celles et ceux que nous ne connaissons pas encore, avec celles et ceux qui ne font pas partie de notre cercle naturel. Et cette langue, elle est le feu. Le feu, c'est ce qui brûle, bien sûr. C'est ce qui brûle le bois, par exemple. Et il me met à penser qu'une langue de feu peut donc brûler une langue de bois. La langue de bois dans le langage courant, c'est lorsque nous parlons grosso modo pour ne rien dire. On utilise des mots connus par tout le monde, mais on tourne autour du sujet. On parle beaucoup, mais on ne répond pas aux questions. Ou en évitant soigneusement d'y répondre. On se plaint souvent que c'est le cas des responsables politiques lorsqu'ils sont interviewés. Il arrive que les chrétiens en soient bien capables aussi. Quand les questions deviennent un peu trop précises, parfois embarrassantes, notamment lorsque ce sont des étrangers qui nous les posent, des gens étrangers à la foi, qui ne connaissent pas notre langue, et qui aimeraient bien comprendre ce que nous disons derrière les mots Dieu, derrière les mots résurrection, providence. Avec mon compte, on ne peut plus manier la langue de bois. On ne peut plus répondre à côté. La langue de feu brûle la langue de bois. On ne peut plus se cacher derrière les formules pédagogiques qui ne sont compréhensibles que de ceux qui connaissent le patois de Canaan. Ceux qui n'ont pas eu toutes ces bonnes séances que vous avez eues pour apprendre les mots de la foi, on ne peut pas leur parler avec les mots de la foi. Il faut donc une langue de feu, capable de les rejoindre dans leur propre culture, dans ce qu'ils sont capables de comprendre, sans se cacher derrière des mots dont nous-mêmes, nous ne sommes pas très sûrs de la signification. Eh bien, ce texte nous dit que nous sommes capables de trouver les mots justes pour nous faire comprendre. Et peut-être même avant cela, pour que nous-mêmes, nous comprenions ce que nous disons. Car il est bien sûr facile de faire des phrases qui ont tout de la couleur et du vernis religieux, qui sonnent bon le christianisme. Mais dès qu'on interroge les uns ou les autres sur la vraie signification de ce qui vient d'être dit, l'embarras prend toute la place. Et c'est là que la langue de feu a tout son intérêt. Faire en sorte que nous ne nous cachions jamais derrière des formules convenues, des stéréotypes, des formules prémâchées, que nous n'avons même plus besoin de penser. Ce texte dit que nous pouvons passer notre langue par le feu pour la purifier de tout ce qui empêche d'être clair et compréhensible. Il y a dans cette image de la langue de feu, je trouve, une sorte d'exigence. Et c'est cela que nous avons essayé de vous transmettre tout au long de votre catéchèse. Une sorte d'exigence vis-à-vis de la langue, vis-à-vis de la pensée, vis-à-vis de la foi. Faire en sorte que votre langue ne soit pas une langue monotone, une langue paresseuse, une langue banale, ordinaire. La langue de feu, c'est cette langue qui parle d'une langue débarrassée des mots fourre-tout qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais mieux que cela, c'est une langue qui gagne en précision. Une langue capable de dire précisément nos idées, nos émotions, nos projets. Une langue capable de parler du monde tel qu'il est, avec sa complexité, avec ses tours et ses détours. Parce que cette langue de feu est une langue qui a brûlé ce qui est grossier, ce qui manque de finesse. Une langue de feu, c'est ce qui nous permet de passer à un niveau supérieur du langage. C'est une langue qui ne se contente pas de quelques mots pour tout dire. dire. Car il n'est pas impossible de tout dire avec seulement quelques pauvres mots. Pensons ne serait-ce qu'à l'amour. Comment utiliser le verbe aimer quand ce n'est pas le verbe kiffer? De la même manière, pour les bonbons, pour un groupe de musiciens, un paysage, un copain, une matière enseignée au lycée, et l'être qui nous fait chavirer lorsqu'on la perçoit. Cet être à l'évocation duquel notre cœur s'emballe, notre peau frissonne, notre vue se trouble pour n'évoquer que quelques traits caractéristiques de la personne qu'on aime. N'est-il pas une vraie différence entre une impression fugace et c'était sympa? N'est-il pas des manières plus subtiles de dire tu nous saoules? La langue de feu nous rend poète. Elle donne la capacité d'exprimer le désir ardent de trouver les mots qui diront la réalité du monde, la profondeur d'un sentiment, l'originalité d'une idée, la beauté d'une action, le caractère infiniment gracieux de la vie. Pentecôte célèbre notre capacité à décrire le monde avec précision et à nous faire comprendre de ceux qui n'ont pas passé leur temps assis avec nous dans la même pièce. Toutefois, une langue de feu n'est pas destinée simplement à nous faire gagner le concours d'éloquence du barreau. Une langue de feu n'est pas juste là pour que nous puissions étaler notre art oratoire et montrer que nous sommes passés maîtres dans l'art de la rhétorique. Certainement, la langue de feu parle-t-elle de l'esprit de Pentecôte qui consiste à nous arracher au déterminisme social. Certainement, la langue de feu dit-elle que nous pouvons transcender notre condition, ne pas être condamnés à être prisonniers d'une culture qui nous tiendra toujours à distance de certaines personnes. Car ce texte ne parle pas de disciples qui se mettent à parler une langue merveilleusement riche pour ne rien dire. Ils sont au contraire rendus capables de parler des merveilles de Dieu. Et bien encore, il me semble que ce texte parle de notre vie quotidienne, en disant qu'il nous indique que nous sommes capables d'avoir des conversations qui valent mieux que les discussions sur la pluie et le beau temps, sur ce qu'on va bientôt manger. Toutes ces conversations de la vie quotidienne qui ont leur utilité, qu'il ne s'agit pas d'éliminer, mais qui, au bout du compte, ne font pas une vie. Du moins, selon ce que l'Évangile nous donne d'espérer. Les disciples sont rendus capables de parler des merveilles de Dieu, nous dit ce texte. En parler à celles et ceux qu'ils rencontrent, pas celles et ceux qu'ils ont choisis. Cela signifie qu'ils sont désormais capables de parler des choses essentielles, de ce qui donne sens à leur vie. Les merveilles de Dieu, ce que Dieu fait. Le début de la Genèse nous le dit. Il s'agit de créer un monde vivable. Il le fait par la parole, justement. Il crée le monde par la parole. Créer le monde, c'est le rendre vivable, et cela se fait par la parole. La parole est ce qui permet de configurer notre monde. C'est ce qui permet de le configurer selon notre désir, selon nos rêves, nos projets, selon notre vocation. Ce sont les mots, ce sont les phrases, chargées de sens, qui nous aident à pouvoir rendre ce monde infiniment plus vivable qu'il ne l'est. Les merveilles de Dieu, c'est tout ce qui rend notre monde plus vivable, tout ce qui rend notre vie plus belle, plus jouissive. Parler des merveilles de Dieu, c'est parler avec d'autres de ce que nous avons observé, de ce qui rend notre monde plus juste, plus fréquentable, ce qui rend les êtres plus humains, plus aimables. Et voilà bien ce qui est essentiel dans la vie. Voyez-vous, Pentecôte est la fête par laquelle nous célébrons notre capacité à parler des choses essentielles, parler des sujets qui nous engagent à fond et qui sont décisifs pour notre bonheur, par exemple. Chers catéchumènes, que nous reconnaissons adultes dans la foi, nous vous reconnaissons capables de manier cette langue de feu, qui, vous l'avez compris, n'est pas une langue convenue, une langue faite de stéréotypes, de formules toutes faites et interchangeables, de ce que nous avons toujours entendu, et qui, en fait, ne correspond plus vraiment à notre vie. Nous vous reconnaissons capables d'avoir votre propre langue pour exprimer les merveilles de Dieu, pour dire le fond de votre espérance, pour communiquer votre désir, mais aussi vos doutes, vos questions, pour partager vos analyses, pour contredire les discours qui vous semblent inappropriés, voire injustes. Notez bien que les disciples parlent des merveilles de Dieu. Ils ne parlent pas de leur religion, ils ne parlent pas de l'Église. Ils vont au-delà de tout cela. Ils parlent de ce qui, pour eux, a un caractère ultime, absolu. Ne nous trompons pas de sujet. Allons à l'essentiel de la vie. C'est dans ce sens que nous pourrons être déclarés témoins de l'Évangile. Témoins de l'Éternel et pas de ses succursales, aussi sympathiques soient-elles. Adultes dans la foi, vous êtes en mesure de manier la langue de feu. Et quel gâchis ce serait de ne pas la manier. Adultes dans la foi, nous vous reconnaissons comme les bardes de l'Éternel, qui feront retentir l'Évangile autour d'eux. Les bardes qui feront entendre des paroles capables de faire entrevoir la puissance de vie qui fraye son chemin, toujours, même lorsque l'histoire nous malmène. Des paroles capables d'offrir des questions qui ouvriront de nouveaux espaces de réflexion, et donc de nouveaux espaces de vie. Des paroles capables d'émouvoir, des paroles capables de rassurer, des paroles capables d'encourager, de stimuler, de raisonner, de convaincre peut-être, d'interpeller, de réjouir, de consoler, de contrarier quand c'est nécessaire, d'étonner souvent. Toutes choses qui nous mettent en mouvement, qui nous évitent de faire du surplace, qui nous évitent de rester assis, qui nous rendent plus vivants, qui nous font mettre hors de nous, dit le texte biblique. Et là encore, quand vous serez en Grèce, vous entendrez qu'être hors de soi, c'est exister en grec. Où entendrons-nous des mots comme ceux qui, dans les temps anciens, ont incité les hommes à se mettre en marche, si ce n'est ici, parmi celles et ceux qui sont censés manier les langues de feu? Où entendrons-nous les mots nécessaires pour retrouver le goût de la vie quand la vie devient fade, si ce n'est ici, parmi les hommes et les femmes qui ont pour vocation d'être locuteurs des langues de feu? Où entendrons-nous les mots nécessaires pour ne pas désespérer, pour ne pas céder à la fatigue et au découragement, si ce n'est ici, dans ces lieux où l'Esprit fait son œuvre, pour que nous puissions manier les langues de feu, dire les merveilles de Dieu, et rendre à chacun les moyens d'exister en plénitude. Amen.